Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, on prend les mêmes et on recommence comme chaque matin. Vous avez fait le bon choix en nous confiant votre réveil.
Ok, oui, nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 6h30 avec du café noir, de l'info chaude, des sourires chaleureux bien sûr et tous vos rendez-vous habituels. Nous sommes le mercredi 23 mars dans l'actualité, Julien.
Un revirement partiel. Total Energy annonce arrêter ses achats de pétrole et de gazole russe d'ici la fin de l'année. C'était la dernière major, comme on dit, la dernière grande compagnie pétrolière à ne pas avoir pris une décision concernant dans ses activités en Russie depuis le début de l'invasion en Ukraine. On y revient dès le début du journal de 5h.
Une question ce matin, avons-nous levé les mesures sanitaires trop brutalement?
C'est en tout cas ce qu'affirme l'OMS, tout en pointant du doigt la France. Il faut dire qu'en une semaine, le nombre de contaminations au Covid a bondi de 43%, plus de 180 000 cas recensés hier. Pire, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus, conséquence de la propagation du variant BA2. Vous savez, c'est le petit frère d'Omicron et surtout de la levée des dernières restrictions, notamment le port du masque en intérieur.
Faut-il revenir en arrière? Sommes-nous repartis pour une nouvelle vague? On en parle à 6h10 avec votre invité Julien, la présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec.
Et il n'y a pas que les indicateurs sanitaires qui voient rouge, il y a aussi le mercure, il y a quelques jours en Antarctique.
À l'endroit le plus froid de la planète, Julien, alors que le thermomètre dans cette région et à cette période de l'année affiche en moyenne moins 50 degrés, le mercure a atteint moins 11,5 degrés Celsius, c'est 40 degrés de plus que la normale.
Un événement extrême de courte durée et totalement inédit selon les scientifiques.
Oui, alors comment l'expliquer? Faut-il y voir une nouvelle alerte du réchauffement climatique? C'est ce qu'on demandera à 5h45 à François-Marie Bréon. Il est chercheur physicien climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
On terminera comme chaque matin avec votre partition.
Et un hommage aujourd'hui au compositeur Pierre Papadiamandis, le complice depuis toujours d'Eddy Mitchell.
Faut me garder et m'emporter.
Le tandem indéfectible du répertoire français dans la partition à 6h20.
Pierre Papadiamandis qui nous a quittés hier. Vous avez l'essentiel du programme, on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien. Pardon, bonjour Oblin.
Bonjour.
C'est le café qui passe de travers.
Ouais, ça arrive parfois. Le beau temps s'installe.
Oui, ça y est, nous sommes vraiment partis sur une très belle semaine. Et plus les jours passent, plus le soleil brille. Alors cette fois, quasiment tout le monde aura du soleil, quasiment pas de nuages. Je cherche un peu pour vous dire, allez, si sur la pointe bretonne ce matin, là au bout du, sur le Finistère, sur le Languedoc, on a quelques passages nuageux. Alors sur le Languedoc, ce sont des nuages bas. Cet après-midi, c'est grand soleil pour tout le monde, pas de jaloux dans un ciel bleu azur. Le vent est toujours là, le vent de temps souffle encore. Alors moins fort qu'hier, mais on a des rafales encore aujourd'hui jusqu'à 80 km/h. Alors les températures, elles sont très contrastées entre le matin et l'après-midi. Ce matin, on a 2 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. Donc ce sont des températures de saison, c'est le printemps, il fait frais le matin. Et alors cet après-midi, ça grimpe, on aura jusqu'à 20 degrés dans les Hauts-de-France. Ce sont des records puisque nous sommes 10 degrés au-dessus des moyennes de saison.
Et nous sommes que le 23 mars.
Exactement.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Bienvenue à vous. En Ukraine, pas de cessez-le-feu, la diplomatie toujours dans l'impasse. De nouvelles sanctions doivent être annoncées demain contre la Russie, tandis que la pression s'accentue sur les entreprises toujours présentes sur place. Total Energy a cédé hier, les détails dans un instant. 50 nuances de droite au grand débat de la présidentielle organisé hier soir par le magazine Valeurs Actuelles. Si la foule a réservé un accueil plutôt froid à certaines personnalités, d'autres, en revanche, ont été acclamés. Récit de la soirée à suivre. Et puis de 1 à 3 étoiles, le mythique guide Michelin a fait des déçus et des heureux, surtout hier en dévoilant son palmarès. Parmi les restaurants sacrés pour la première fois, Fief à Paris, nous nous sommes glissés dans les cuisines de cet établissement à l'annonce de la bonne nouvelle.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Presque un mois que la guerre a débuté en Ukraine, deux bombes superpuissantes se sont abattues hier sur la ville de Mariupol, selon les autorités de la ville, où se trouvent encore 100 000 civils pris au piège. Kiev, la capitale, est de son côté toujours sous couvre-feu jusqu'à 6h, heure française ce
conséquence
matin.
D'une pluie de bombes sur le pays et de négociations diplomatiques toujours dans l'impasse.
Oui, hein, puisqu'Emmanuel Macron, en chef de l'Europe, s'est encore entretenu avec Vladimir Poutine Poutine, son homologue russe, hier. Une heure de discussion sans accord de cessez-le-feu, annonce l'Élysée, qui rappelle son soutien à l'Ukraine. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doit s'adresser aujourd'hui aux députés et sénateurs français par visioconférence à 15h.
Et la question qui se pose ce matin, c'est jusqu'où doivent aller les sanctions contre la Russie ?
Oui, les Occidentaux doivent en annoncer de nouvelles demain, renforcer celles déjà existantes. Dans le même temps, les entreprises françaises encore présentes en Russie sont pointées du doigt, à l'image de Total Energy qui cède à la pression et arrête une partie de ses activités en Russie, Maud Descamps.
Oui, ce sera progressif. D'ici la fin de l'année, Total Energy va arrêter d'acheter du pétrole russe, mais aussi du gasoil. Il faut savoir qu'une grande partie du gasoil vendu dans les stations Total Energy en France vient de Russie. Il s'agit donc d'une décision forte pour le groupe qui risque par ailleurs de fortement dégrader ses relations avec Moscou, me confiait un expert du secteur. Ça, c'est donc pour le pétrole. Total Energy va en revanche conserver ses activités gazières. Le groupe explique qu'il n'opère aucun champ gazier ni d'usine de gaz naturel liquéfié en Russie. Il a seulement des participations dans des groupes partenaires, des participations que le pétrolier ne peut pas revendre en raison des sanctions internationales. L'unique solution serait alors de se retirer sans compensation financière, ce qui contribuerait à enrichir des investisseurs russes, une action en contradiction avec l'objet même des sanctions, se justifie Total Energy. Pas question donc pour le groupe français de quitter la Russie, tant qu'il n'y aura pas d'embargo imposé par les pays européens.
Merci Maud Descamps.
C'est le plus grand plan social en cours en France. 85 000 emplois détruits dans le pays en 10 ans.
C'est le constat établi par les Amis de la Terre ce matin qui pointe le développement du e-commerce non alimentaire. L'ONG déplore aussi une menace environnementale avec des entrepôts plus grands que les grands centres commerciaux.
On en vient à la présidentielle. J-18 avant le premier tour. Dernière ligne droite donc pour les candidats qui défendent leur programme. Et hier soir, c'était au Palais des Sports de Paris.
Pour la soirée du grand débat des valeurs organisée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, toutes les nuances de droite représentées ainsi que la majorité présidentielle. Accueil chaleureux pour Éric Zemmour, beaucoup plus froid pour Valérie Pécresse. Le reportage de Victor Chabert.
Devant plus de 4000 personnes, l'humoriste Gaspard Proust introduit la soirée et au milieu des nombreux rires, une ovation.
Dans le brief que m'ont fait les mecs de Valeurs Actuelles, ils m'ont dit bon, ce qui serait important, c'est que tu mettes les gens à l'aise, qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre écurie politique et qu'à la fin, tout le monde rentre à la maison en se disant, au fond, Zemmour a raison. Alors...
Ovation également pour Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Prestation plus mitigée pour la ministre Marlène Schiappa et puis décifflée pour la candidate LR Valérie Pécresse.
Bonsoir.
Merci infiniment. Alors...
Éric Ciotti, lui aussi secoué par la salle, quand il désavoue notamment le candidat Reconquête sur son projet de ministère de la Remigration. Finalement, le seul que le public est venu réellement applaudir, c'est Éric Zemmour.
Merci à vous tous.
Dans cette salle acquise à l'ancien journaliste du Figaro, une autre intervention marque les esprits.
Bardella, parce que je le connaissais peu et j'étais assez convaincue par son discours, qui était très clair. Voilà, moi je suis plutôt derrière Éric Zemmour, mais c'est vrai que j'ai trouvé Bardella particulièrement pertinent.
Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, représentait Marine Le Pen retenue au même moment sur une émission de télé qui lui était, elle, entièrement consacrée.
Victor Chabert, et puis ajoutez ce rendez-vous dans vos agendas, lundi 28 mars, 18h, pour le grand oral de la présidentielle organisé par Europe 1, Paris Match et le JDD. Le thème « Quelle France, quelle Europe pour demain ?»
L'épidémie de Covid à présent, la France a levé trop tôt et trop brutalement les mesures anti-Covid.
Oui, vous le disiez, c'est l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, avis qui s'observe notamment dans les chiffres. 180 000 nouveaux cas hier, plus de jauge, plus de passe, plus de masques, même si 75% des Français le portent toujours dans les magasins, par exemple selon un sondage YouGov paru hier. En Bretagne, on préfère rester prudent. Le reportage dans une pharmacie près de Rennes de notre correspondante Sandrine Prioul.
Ça va être la cinquième fois que je suis piquée cette année. Alors
rubéole, grippe et surtout Covid. Cette retraitée est abonnée à la vaccination sur la longue liste du pharmacien Éric Vallot, également testeur.
En fait, on vaccine en début d'après-midi et on fait des tests tous les matins et tous les soirs.
Aujourd'hui, 15 antigéniques au compteur, une large moitié positive.
Des gens qui viennent avec des cas contacts familiaux, donc c'est des familles entières.
Ma petite, elle a les cas contacts, donc là j'ai fait un test salivaire pour elle. Moi, je l'ai eu au mois de janvier, j'espère ne pas le rechoper. Même quand ils ont dit oui, on peut circuler sans masque. Non, je ne l'ai pratiquement pas lâché, moi.
Alors que l'OMS considère que les mesures ont été levées trop tôt en France, le pharmacien encourage, lui, ceux qui gardent le réflexe du port du masque.
Ils avaient l'impression que c'était une obligation de porter le masque et que c'était une obligation de l'enlever. C'est un peu dommage. Donc maintenant, il faut vraiment ne pas passer de tout à rien. Garder le masque quand on est enrhumé, quand on est en face de gens fragiles, ce serait déjà très bien.
Une tension en Bretagne assez inédite, concède-t-on ici, même si les symptômes de ce sous-variant BA2 restent comparables au rhinopharyngite. Cesson Sévigné, près de Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Et pour parler de ce rebond de l'épidémie, des mesures sanitaires, votre invité Julien et Omblin à 6h10 en direct, Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé.
On termine ce journal la tête dans les étoiles Michelin, évidemment, elles ont été attribuées hier à Cognac en Charente.
41 établissements ont eu la chance d'obtenir leur toute première étoile, parmi eux le restaurant Fief dans le 11e arrondissement de Paris. Le cuisinier Victor Mercier a également été sacré jeune chef de l'année. Nina Droff s'est invitée dans les cuisines du restaurant à l'annonce de la bonne nouvelle.
Dans la salle tamisée, le téléphone sonne en continu. Depuis l'annonce des résultats, les félicitations pleuvent, mais toute l'équipe rassemblée autour du bar attend surtout un appel, celui de leur chef, Victor Mercier, en direct de la cérémonie à Cognac.
Bah alors mon chef, t'es content, t'es heureux ?
Non mais c'est ouf, c'est dingue, j'y croyais pas quoi. Merci à vous en tout cas pour tout ce que vous avez fait, c'était pas facile.
Félicitations encore mon chef.
À l'autre bout du fil, Damien, le directeur de l'établissement, a du mal à contenir sa joie.
Là, toutes les réservations qui tombent, forcément, on a des félicitations qui les accompagnent. On a les fournisseurs qui sont ravis aussi d'apprendre que tous leurs produits nous ont permis d'atteindre ce niveau. On est un peu ému, on est sur un petit nuage et c'est une belle récompense.
Juste derrière, sa collègue Eugénie peine aussi à réaliser.
C'est incroyable de faire partie de ce grand moment pour le restaurant. Et quelle admiration pour le chef d'avoir reçu en plus le prix de jeune chef de l'année. À Fief, on est extrêmement fiers de lui et c'est totalement fou.
Objectif désormais à Fief, défendre cette étoile devant les nouveaux clients dès ce soir.
Nina Droff, au restaurant Fief pour fées ici en France. Comptez 85€ pour le menu dégustation tout de même.
J'ai déjà faim, c'est pas normal à 5h08. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Et à 5h08, mon cher Julien, ce n'est pas l'heure du petit-déj mais l'heure des courses.
Ah.
Avec Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lisieux et mon pari gagnant sera le 205, Yvan Jika. Irrésistible lors de sa dernière course de rentrée le 10 mars à Caen après plus de 6 mois d'absence. Elle s'est imposée ce jour-là en jument déclassée. Visiblement en gros retard de gain, cette spécialiste des tracés corde à droite comme celui de l'hippodrome de Lisieux devrait pouvoir sur sa lancée confirmer en doublant la mise. Notez bien, pour cet après-midi à Lisieux, réunion 1. Dans la deuxième course, le numéro 5, Yvan Jika.
Yvan Jika, le numéro 5, c'est noté. Merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon réveil. Le pressing du petit matin. Trois histoires trouvées dans la presse du jour. Et pour les raconter avec nous, Martin Lange, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence ce pressing avec les unes de vos journaux. Mort d'Yvan Colonna. Ce que révèle l'enquête, titre Libération, qui a pu consulter en exclusivité le dossier judiciaire, comprenant notamment le récit glaçant de l'assaillant, un ancien taliban qui détaille précisément comment il s'est attaqué aux militants nationalistes corse il y a 3 semaines en prison, décédé lundi soir des suites de ses blessures. La Corse sous tension après la mort de Colonna, écrit en une Le Figaro. Malgré quelques rassemblements spontanés, l'île ne s'est pas embrasée hier, mais passé le deuil, la crainte de nouvelles flambées de violence est dans tous les esprits. Voilà ce que l'on peut lire. Et puis on termine avec cette question en une du Parisien aujourd'hui en France. Déroute du PS et après, interroge le quotidien, alors que la candidate du parti à la Rose, Anne Hidalgo, n'atteint pour l'heure que 2,5% dans les sondages et nous sommes à 18 jours du premier tour. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Cela vous a peut-être échappé, les mondiaux de patinage artistique qui commencent aujourd'hui et ils se déroulent en France. À Montpellier, le journal La Croix fait un focus sur la compétition qui va hélas se dérouler, je cite, en mode réduit. Alors en mode réduit, certes, mais sous le signe de la solidarité, avec la présence de 5 athlètes ukrainiens. Ils sont tous bien arrivés dans l'Hérault, mais c'était loin d'être gagné. L'un d'eux était encore chez lui à Kiev la semaine dernière. Quant au couple, ils ont réussi à rallier la Pologne au début de l'invasion russe. Tous n'ont pas pu s'entraîner normalement. Vous imaginez bien que rester plusieurs jours sans patiner, ça peut être un sacré handicap pour ces sportifs de haut niveau. Les danseurs Oleksandra Nazarova et Maxime Nikitine ont pu en tout cas mettre au point leur programme court et ils nous promettent une prestation de circonstance. Ces mondiaux de patinage artistique en France seront donc aussi l'occasion d'acclamer notre tandem tricolore, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, nos champions olympiques qui ne vont pas avoir l'occasion de se mesurer à leurs grands rivaux, le duo russe qui a décroché la médaille d'argent à Pékin et qui sont les champions du monde en titre. Oui, l'Union internationale de patinage a pris la décision d'exclure les athlètes russes et biélorusses des compétitions, deux nations qui dominent la discipline du patinage. Exit donc les champions du monde en titre dans trois des spécialités, c'est-à-dire dames, couple et danse sur glace, une décision applaudie dès demain par Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération française des sports de glace. Et il faut bien comprendre, dit-elle, que c'est une sanction anti-Russie et non anti-russe. Autre ombre au tableau de ces mondiaux, l'absence également du champion du monde et champion olympique, le patineur américain Nathan Chen, pour cause de blessure. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la fête sera gâchée. Par le biais de cet événement majeur, la Fédé compte bien tourner la page de la pandémie, parce que oui, il ne faut pas l'oublier celle-ci. Ça a touché aussi le patinage artistique et relancé la discipline, donc en séduisant de nouveaux licenciés de moins en moins nombreux d'année en année. Les championnats du monde de patinage artistique à Montpellier dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. C'est le journal La Croix qui en parle ce matin.
Et puis les différents scandales d'agressions sexuelles qui ont éclaté ces dernières années dans ce milieu n'ont pas aidé forcément à redorer l'image du patinage artistique qui est pourtant un magnifique sport. Merci beaucoup Ombline. Martin, c'est à vous.
Oui, avec une mission sauvetage ce matin, une opération hors norme. 4 jours de périple, 2000 km parcourus pour rapatrier un lion et un loup bloqués en Ukraine et les mettre à l'abri en Roumanie. Alors ces animaux étaient pensionnaires du zoo de Zaporijjia. On a beaucoup parlé de cette ville, c'est là où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, visée par des tirs russes au début de la guerre. Ce loup et ce lion étaient pris au piège à 20 km seulement de la ligne de front. Autant dire qu'on ne donnait pas cher de leur peau. Mais c'était sans compter sur Tim Lox, un vétéran de la guerre en Irak. Il était à Lviv, à l'ouest du pays, prêt à venir en aide aux populations civiles, quand un défenseur de l'environnement lui parle du lion Simba et du loup Akela. Ni une ni deux, il remplit son minibus de couches. Ça, allez savoir pourquoi, de lait maternisé et de produits d'hygiène. Et puis, il roule jour et nuit, se relayant avec deux amis. Arrivé sur place, le plus dur commence. Il faut endormir le loup avec un sédatif, puis charger les bêtes. Ils utilisent une grue et une pelleteuse pour les charger dans le minibus. Une manœuvre périlleuse, surtout quand on ne parle pas un mot d'ukrainien. Le tout met plus de 3 heures. Tout ça à quelques encablures des combats. Finalement, Tim et ses deux acolytes, reprennent la route. Pas vraiment rassurés. Nous regardions toujours dans le rétroviseur pour constater qu'ils étaient là juste derrière nos épaules.
Et leur périple n'est pas terminé, Martin.
Non, il faut refaire le chemin inverse, 1000 km, éviter les bombardements, là encore, passer les checkpoints. Et on n'est pas toujours crédible quand on dit qu'on transporte un lion et un loup. Un garde nous a même dit que ce n'était pas le moment de plaisanter, sourit Tim. Finalement, 24 heures plus tard, les voilà arrivés en Roumanie. Là-bas, un vétérinaire examine les animaux, il leur délivre les autorisations nécessaires pour les transporter aux eaux de Radoti, au nord-est du pays. Dimanche dernier, Akela et Simba ont finalement été libérés. Ils peuvent remercier leur ange gardien qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tim Lox veut déjà repartir et sauver d'autres animaux. En Ukraine, une mission de 2000 km pour sauver des animaux, c'est à lire sur le Huffington Post.
Quel périple. Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part une histoire que nous relate le site du Parisien, une histoire que chacun jugera à sa façon. Vous vous souvenez peut-être du tsunami provoqué par la publication il y a 2 ans du Consentement, ouvrage dans lequel Vanessa Springora raconte l'emprise qu'avait sur elle Gabriel Matzneff, l'écrivain qui, au milieu des années 80, a eu des relations sexuelles avec celle qui, à l'époque, n'était âgée que de 14 ans, lui 49. Matzneff n'a jamais contesté les faits, bien au contraire, il en a même écrit un roman en 1993, La prunelle de mes yeux, où il retrace sa relation avec Vanessa Springora. C'est d'ailleurs loin d'être le seul livre dans lequel l'auteur exprime son penchant pour les très jeunes adolescents ou les enfants. D'ailleurs, à ma connaissance, une enquête pour pour viol sur mineur est toujours ouverte, enquête qui devrait, selon toute vraisemblance, aboutir à un non-lieu, les faits étant prescrits. Ces révélations n'ont donc pas vraiment bouleversé la vie de Gabriel Matzneff, qui, de toute façon, a vécu tout cela depuis l'Italie, où le vieil homme de 85 ans coulait des jours paisibles. Je parle au passé car, depuis quelques mois, l'écrivain est de retour à Paris en raison de problèmes de santé. Et oui, pourquoi se priver de la qualité des hôpitaux français, surtout quand d'autres les financent pour vous. Matzneff a donc retrouvé son pied-à-terre parisien, son studio HLM de quelques 30 mètres carrés dans un bel immeuble niché dans une petite ruelle en plein cœur du quartier latin. Un logement non conventionné, au loyer défiant toute concurrence, 350 euros mensuels, soit 600 à 700 euros de moins que ce qu'un bailleur privé exigerait pour ce type d'appartement. Ce HLM, Gabriel Matzneff en jouit depuis 28 ans. À l'époque, en 1994, donc, il avait fait intervenir celui qui était alors le maire du 5e arrondissement, Jean Tiberi, ce que ce dernier a confirmé du bout des lèvres il y a 2 ans. Une histoire de passe-droit, somme toute assez classique, qui connaît ces derniers jours un nouveau rebondissement. Car voyez-vous, Gabriel Matzneff n'est pas totalement satisfait de son studio. La salle de bain n'est plus adaptée à son âge avancé. L'écrivain a donc demandé au propriétaire de l'appartement et logicien, l'un des 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris, qu'on lui réaménage la pièce d'eau. En clair, qu'on remplace la baignoire, peu pratique, par une douche à l'italienne. Demande rejetée en bloc par le bailleur. Même réaction du côté de l'hôtel de ville. C'est déjà problématique que M. Matzneff occupe un logement social et que la loi ne nous permette pas de le faire partir. Alors on ne va pas, en plus, lui refaire sa salle de bain. L'écrivain a pourtant une nouvelle fois fait jouer son réseau pour arriver à ses fins. Il a missionné l'un de ses proches pour que la maire du 5e arrondissement intervienne en sa faveur, ce que Florence Berthoux a fait bien volontiers. C'est un vieux monsieur qui s'est cassé le col du fémur. Je trouve que sur le plan humanitaire, on aurait pu lui refaire sa salle de bain, explique l'élu LR aux Parisiens. Je suis intervenu comme je l'aurais fait pour n'importe quel administré. Il n'y a pas eu de passe-droit. Cette affaire, dit-elle, est un non-sujet. Je vous laisse en juger.
Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h18 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les principaux titres de ce mercredi, le journal permanent, Alban Le Prince.
En Ukraine, cela fera un mois demain que la guerre a débuté et à Mariupol, où 100 000 civils sont toujours coincés, pris au piège de bombes superpuissantes se sont abattues sur la ville hier. La municipalité n'a pour l'heure toujours pas communiqué de bilan. De son côté, la Russie parle d'armes nucléaires. Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie, c'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du Kremlin sur la chaîne CNN. En Corse, les drapeaux en berne et des hommages hier au lendemain de la mort d'Ivan Colonna. 3 semaines après la violente agression de l'assassin du préfet Erignac en prison à Ajaccio, 250 lycéens ont défilé dans le calme selon le décompte des autorités. Et puis dans l'affaire Aramburu, une jeune femme de 24 ans mise en examen pour complicité d'assassinat est placée en détention provisoire. Hier, la suspecte aurait conduit le véhicule dans lequel se trouvaient les 2 autres accusés, des militants d'extrême droite toujours en cavale.
Europe 1. Très bon réveil à tous. Ce sont les initiatives en France. À présent, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Vincent Grenat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur Europe de Volta Charging, une société américaine qui déploie des bornes de recharge électrique, on va dire un peu particulières, puisqu'elles sont équipées de larges écrans qui diffusent de la publicité. Et tout le monde y gagne, c'est ça ?
Tout à fait. Tout le monde y gagne, parce que c'est un modèle un peu différent. C'est-à-dire que la charge, finalement, et le coût de la charge, de l'infrastructure de charge, n'est pas porté par l'utilisateur final sur le prix du kilowatt qu'il paye, mais coporté par les annonceurs et leur budget. Ça permet en fait d'avoir un coût de l'énergie sponsorisé, donc d'un coût plus intéressant pour tout le monde. Et comme ça, on fait profiter la transition vers la mobilité électrique plus facilement à un plus grand nombre de personnes.
Donc ça veut dire que grâce à ces publicités, avec ce système, on peut recharger son véhicule gratuitement ou du moins en partie ?
C'est ça, tout à fait. Alors on parle plutôt de tarifs sponsorisés, parce que l'annonceur qui accepte de prêter ou les annonceurs qui acceptent de se prêter au jeu, forcément, vont nous permettre donc ce tarif un peu plus intéressant pour le grand public. Parfois, ça peut être gratuit sur une certaine durée, par exemple 30 minutes, 40, 45 minutes. Et parfois, ça va être payant dès le début, mais avec un tarif qui va être la plupart du temps à 50% du prix de ce qu'ont l'habitude de payer les électromobilistes.
Alors, je précise que vous avez inauguré il y a un mois votre premier site européen de recharge électrique et vous avez choisi la zone commerciale du Grand Épagny près d'Annecy en Haute-Savoie. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les clients sont en rendez-vous?
Alors, les clients sont au rendez-vous. On a beaucoup de retours positifs de la part de notre partenaire, le restaurateur qui s'est prêté au jeu, qui s'appelle Key West. Donc, tout est plutôt positif. On a des ajustements sur lesquels on travaille actuellement, sur, par exemple, à quel moment l'énergie doit être délivrée pour éviter, vous savez, ce qu'on appelle les voitures tampons qui viennent se garer et passer leur journée sur le point de charge. Ça, on a des solutions qui sont en cours de déploiement et d'optimisation. Et sinon, les premiers retours sont très positifs. Les clients annonceurs, on a des premiers budgets qui vont arriver dans les jours à venir, avec plutôt des enseignes locales inscrites sur le territoire. Donc on est content aussi, parce que c'était notre but, c'est de servir à la fois l'électromobiliste avec un produit qui fonctionne, qui est efficace, qui est simple d'accès pour lui. Et là, pour le coup, sur Épagny, c'est 100% gratuit pour celui qui veut se charger. Et d'un autre côté, pour les annonceurs, c'est aussi un moyen d'aller créer du contact avec des cibles. On parle comme ça dans le milieu de la pub et du média, des cibles qui sont aux alentours des points de vente sur lesquels ils souhaitent justement du passage, par exemple.
Et justement, vous choisissez quel type de site pour implanter vos bornes de recharge? Vous avez dit là, c'est un restaurant, mais on imagine aussi des supermarchés, tout ça plutôt en périphérie des grandes villes?
Alors, ça peut être un peu des deux. Donc, on va chercher en fait des points d'attractivité économique où il y a du trafic, parce que forcément, nous, ce qu'on monétise finalement vis-à-vis des budgets annonceurs, c'est le trafic, hein, c'est le nombre de personnes que les écrans publicitaires sont susceptibles de toucher. Donc, ça peut être des lieux de restauration, des lieux d'activité économique comme ce que vous avez dit, des zones commerciales, des centres commerciaux, des malls et aussi des grandes surfaces ou grandes moyennes surfaces. Mmh. Et ensuite, ça peut être aussi des lieux d'activité culturelle, cinéma, salle de spectacle, salle de concert ou encore stade, par exemple.
Et ça permet à ces commerces, j'imagine, de s'équiper à moindre frais, d'être plus attractifs et surtout d'augmenter la fréquence des passages?
Tout à fait. Alors, en fait, nous, ce qu'on va travailler, c'est ce côté un peu vertueux. Les différentes parties prenantes que sont l'électromobiliste, le propriétaire foncier et l'annonceur vont tous gagner. Par exemple, pour ce qui est du propriétaire foncier, lui, il va créer de l'attractivité sur son point de vente, donc générer plus de passages. Un passage qui va parfois être plus long, parce que les gens qui peuvent récupérer une charge gratuite de 45 minutes, et ben, ils vont passer plus de temps sur le point de vente. Pour un restaurant, ça peut être 1h30 de gratuité. Ben, par exemple, ça va se traduire par un peu plus de... En plus, mon temps à table, j'ai profité un peu plus du moment. Donc, ça se traduit, ça, sur le panier moyen pour le restaurateur ou pour le commerçant. Et en parallèle, pour le conducteur automobile, c'est plus de charge et plus de puissance en sortie.
Alors, Volta Charging a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant aux États-Unis. Et votre modèle économique a été bâti à une époque où l'électricité était relativement peu chère. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf que voilà, depuis quelques mois, le prix du kilowattheure atteint des sommets et ça risque de durer. Est-ce que c'est à même de remettre en cause votre développement?
Non, ça ne mettra pas en cause notre développement. Justement, ça va nous permettre de nous inscrire encore plus sur la durée, en accentuant justement la pertinence du modèle. Avec ce cofinancement apporté par la pub, on arrivera toujours, nous, à faire profiter d'un prix au kilowatt qui sera sponsorisé, donc moins cher pour l'électromobiliste. Et c'est ça qui compte pour nous, c'est de faire profiter de la transition vers la e-mobility à tous, plus facilement, en ayant confiance dans le fait que le coût, ok, aujourd'hui, le coût du véhicule est plus cher qu'un coût d'un véhicule thermique. Néanmoins, c'est des choses qui vont se passer dans le temps. Et avec un prix et des modèles vertueux sur le financement et la gestion de l'apport en électricité en point de charge, on pense que c'est plus pertinent que justement tous les autres modèles.
Donc, vous allez continuer à installer de nouvelles bornes en France?
Tout à fait. On a un plan de développement qui est assez dense sur les mois à venir. Par contre, on communique pas tant qu'on n'a pas ouvert un point ou en tout cas installé un point. Donc, on en a pas mal qui vont être annoncés dans les semaines à venir. Avec des sites de différentes tailles, on a des stations de recharge qui sont de quelques points de charge, un peu comme ce qu'il y a à Épagny avec 3 points de charge, à des stations de recharge un peu plus conséquentes. On va pouvoir accompagner justement un commerçant ou un centre commercial sur sa transition vers la e-mobilité de manière générale, comme ça, de manière à ce qu'il puisse répondre, lui, à ses obligations aussi en termes d'électrification de ses points de stationnement.
Merci beaucoup, Vincent Grenat, de nous avoir fait découvrir Volta Charging, les bornes de recharge qui s'autofinancent en partie grâce à la publicité. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil. À suivre le journal de Christophe Lamarre avec à la une le transfert dans une prison corse dans quelques semaines des deux complices d'Ivan Colonna dans l'assassinat du préfet Erignac. Et puis nous sommes mercredi et donc Laurie Choleva va nous donner ses conseils sur ce qu'il ne faut surtout pas manquer au cinéma.
La comédie La Brigade avec Audrey Lamy qui incarne une chef cuisinière à la tête d'une équipe de mineurs isolés étrangers, et un thriller avec Karine Viard, elle joue le rôle d'une mère prête à venger la mort de son fils. Votre prescription ciné à 6h-10.
Et puis un événement spectaculaire spectaculaire. La base de recherche Concordia en Antarctique a enregistré il y a quelques jours une hausse record de la température.
40 degrés de plus que les normales dans cette région polaire et à cette saison de moins 50 degrés en moyenne, le thermomètre est monté jusqu'à moins 11 degrés Celsius. Comment analyser ce phénomène et faut-il y voir un lien avec le réchauffement climatique? On sera dans un quart d'heure avec François-Marie Brion, chercheur physicien climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Alors si la météo est loin d'être idyllique en Antarctique, elle l'est en revanche en France.
En tout cas, elle est ensoleillée, ça c'est sûr qu'on a un très beau début de semaine. Et aujourd'hui, c'est encore mieux que les derniers jours, puisque chaque jour qui passe est de plus en plus ensoleillé. Alors nous avons un anticyclone qui recouvre l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Ouest, et qui nous protège des dépressions. Donc aujourd'hui, à part quelques légers passages nuageux sur le Finistère et le Languedoc, on a quand même un soleil qui s'impose sur toute la France, sans exception, dans un ciel bleu azur complètement dégagé. La seule petite chose dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est le vent. Le vent d'autant qui reste très présent toute la journée à l'ouest du bassin aquitain, avec des rafales jusqu'à 80 km/h en pleine toulousaine. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans le ciel. C'est une très belle journée. Alors c'est côté température que c'est un petit peu plus étonnant, parce qu'on a un grand contraste de température entre ce matin et cet après-midi. Imaginez, ce matin, on a moins 4 au Puy-en-Velay. On va également gratter les pare-brises à Valence avec moins 3, moins 2 à Clermont-Ferrand. On a 1 degré à Strasbourg, 3 à Marseille, 5 à Paris et 10 à Boulogne-sur-Mer. Cet après-midi, il va faire nettement plus doux avec 15 degrés à Montpellier, 17 à Marseille et Dijon, 18 à Besançon, 19 à Lille et la maximale est prévue pour Paris avec 20 degrés. C'est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.
Ah, nous y voilà. Merci beaucoup Anissa Dadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Disons que ça fait un peu session de rattrapage, mais enfin, il vaut mieux tard que jamais. Hein.
Mieux vaut tard que jamais, dit ce Corse à l'annonce de la date de transfert de Pierre Alessandrini et Alain Ferrandi, les deux membres restants du commando Erignac. Ils purgeront la fin de leur peine à Borgo, près de Bastia. Leur transfert s'effectuera d'ici la mi-avril. La guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée des parlements occidentaux. Après Washington, Berlin, Rome, le président ukrainien s'adressera aux parlementaires français cet après-midi. La France qui tente d'anticiper l'afflux de réfugiés ukrainiens. Reportage à suivre en Nouvelle-Aquitaine. Et puis dans ce journal, plongé dans le grand bain bleu de l'équipe de France pour Jonathan Clauss. Le joueur appelé par Didier Deschamps a découvert Clairefontaine à l'occasion de son premier entraînement.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Éviter l'embrasement, le gouvernement croise les doigts pour que la Corse ne s'enflamme pas à nouveau 24 heures après l'annonce de la mort d'Ivan Colonna. Pour l'instant, l'heure est au deuil. Aucune date pour les obsèques. En revanche, l'exécutif a donné un calendrier pour le transfert de ses deux complices du commando Erignac. Pierre Alessandrini et Alain Ferrandi seront transférés d'ici la mi-avril à Borgo, près de Bastia. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse.
C'était une des revendications portées depuis des années par l'ensemble des partis politiques ici en Corse, pas seulement les élus nationalistes. Le rapprochement des prisonniers, notamment le rapprochement du commando Erignac. Il aura donc fallu l'agression et la mort d'Ivan Colonna pour que l'État cède. Un gâchis pour ces Corses.
Chez nous, on est Zariaour. Il serait temps, depuis qu'on le demande. Ils sont en prison, pourquoi? Alors que c'est fini, leur peine, elle est terminée. C'est parce qu'ils sont Corses. Eh bien, ils se débarrassent de nous s'ils ne veulent plus de nous. Hein. On attend que ça. Hein.
Disons que ça fait un peu session de rattrapage. Mais enfin, il vaut mieux que jamais.
André Pacou est le délégué de la Ligue des droits de l'homme en Corse.
On y est, mais quel triste chemin pour y arriver. Quel triste chemin. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que si simplement la loi avait été appliquée, Ivan Colonna ne serait pas aujourd'hui décédé. C'est ça le drame.
Il y a des jours, la levée du statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avait ouvert la voie d'un possible rapprochement. Ce n'est donc désormais plus qu'une question de semaine.
Et quant à l'agresseur et responsable présumé de la mort d'Ivan Colonna, il pourrait être poursuivi pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le quotidien Libération s'est procuré le procès-verbal de l'audition de Franck Elong-Abbé. Ce détenu présenté comme radicalisé dit avoir agi pour défendre Dieu qui avait été blasphémé par Ivan Colonna. Dans l'enquête sur le meurtre de l'ex-rugbyman Frédérico Martín Aramburu, la jeune femme mise en examen pour complicité d'assassinat dort en prison depuis hier soir. Deux hommes, dont l'auteur des coups de feu mortels, sont toujours recherchés.
La guerre en Ukraine à présent, Moscou intensifie ses bombardements.
Deux bombes de très forte puissance ont frappé Mariupol, la cité portuaire théâtre de violents combats entre les forces ukrainiennes et l'armée russe qui a pris pied dans la ville. À Kiev, le couvre-feu sera levé ce matin à 7h. La capitale et sa banlieue, toujours ciblées par des frappes aériennes à l'aide de drones. Une guerre absurde et ingagnable, souligne le secrétaire général des Nations Unies. Tôt ou tard, il faudra passer du champ de bataille à la table de la paix, selon Antonio Guterres.
Mais pour l'instant, les négociations font du sur place.
Nouvel entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le 8e depuis le début du conflit. Le chef de l'État a réclamé un cessez-le-feu. Discussion également par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'adressera cet après-midi à 15h aux parlementaires français par visioconférence.
La France qui met en place ses structures d'accueil pour les réfugiés ukrainiens.
26 000 réfugiés ukrainiens sont déjà sur le sol français. 100 000 sont attendus à terme. Le gouvernement annonce la mise en place d'un plan national d'accueil et d'hébergement. Exemple en Nouvelle-Aquitaine, où l'on déploie déjà un dispositif en trois étapes. Les explications de Fabienne Bussiot, préfète de région et du département de la Gironde.
On s'attend à recevoir dans le mois qui vient 11 000 personnes venant d'Ukraine. C'est vraiment une arrivée massive. C'est pour ça qu'on a prévu un dispositif pour faire d'abord un accueil collectif dans des hubs. Ça peut être une auberge de jeunesse, ça peut être une salle polyvalente aménagée, gérée par une association partenaire de l'État. Si on a 200 personnes qui arrivent à la fois, il faut qu'on puisse 48 heures les accueillir d'urgence dans des hubs. On en a prévu trois en région Nouvelle-Aquitaine, Poitiers, Limoges et bien sûr à Bordeaux. Mais très vite, il faut qu'on libère les places au niveau du hub, 200 personnes, nous aurons encore 200 personnes la semaine suivante et ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'on crée une grande fluidité. Après les passer dans ce que nous on a appelé des SAS, la plus petite, 50 personnes, tous les départements devront prévoir un certain nombre de SAS et c'est depuis ces SAS que les familles seront dirigées vers des appartements et des familles d'accueil.
La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussiot avec Stéphane Place.
La campagne pour l'élection présidentielle, les socialistes anticipent la large défaite d'Anne Hidalgo, crédité de 2,5% dans les intentions de vote dans les sondages et prépare déjà la suite.
À commencer par François Hollande, l'ex-président s'est bien affiché aux côtés d'Anne Hidalgo hier au cours d'un meeting à Limoges, un soutien qui n'empêche pas les arrière-pensées alors que les sondages placent la candidate socialiste en queue de peloton. François Hollande se projette déjà au-delà de la présidentielle. Reportage Arthur Delaborde.
Nous sommes fiers d'être là avec toi.
Anne Hidalgo et François Hollande, ensemble sur scène lors d'un meeting, symbole important pour la maire de Paris, l'ancien président est venu lui apporter un soutien clair, lui qui jusqu'ici était absent de la campagne.
Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile. Qu'aurait-on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché ?
Dans un long discours, à la manière d'un candidat, François Hollande a déroulé un programme insistant sur les conséquences de la guerre en Ukraine, affichant ses convictions sur le nucléaire, l'éducation, la santé ou encore la transition énergétique. L'ancien chef de l'État a également donné rendez-vous au lendemain de la présidentielle.
Une initiative devra être prise au lendemain du scrutin et avant les élections législatives pour reconstruire la gauche de responsabilité. J'y prendrai toute ma part. Parce que c'est tout le sens de ma vie.
Un possible retour aux sources est en tout cas de plus en plus assumé par son entourage. François Hollande pourrait être candidat aux législatives. Il aurait choisi la première circonscription de Corrèze sur laquelle il a régné pendant 14 ans. Limoges, Arthur Delaborde, Europe 1.
On termine ce journal avec le football. L'équipe de France entame la préparation de ses deux matchs amicaux et les petits nouveaux ont découvert Clairefontaine.
Et entrer au château fait partie de l'itinéraire classique pour tout appeler en équipe de France. Jonathan Clauss n'a pas failli à cette règle, mais il a bien failli se tromper de porte. Cyril de la Morinerie.
Quand il est arrivé à Clairefontaine, Jonathan Clauss a demandé où était la porte d'entrée. À 29 ans, c'est une grande découverte. Comme il l'a expliqué à Europe 1, Jonathan Clauss a monté les marches du château. Les yeux émerveillés.
Tout est extraordinaire. Des gens à l'accueil jusque dans les chambres. J'avais un peu les étoiles dans les yeux, le côté un peu je regarde beaucoup. Un rêve éveillé, oui, mais qu'il va falloir vite transformer en grosse réalité.
Pourtant, à 18 ans, Clairefontaine lui semblait bien loin. Strasbourg, l'écarte. Jonathan Clauss n'a plus de club et envisage d'arrêter le football. Son père l'a retrouvé en miettes.
Ah oui, en miettes, c'est le cas de le dire. Je n'avais plus goût à rien du tout. Je gérais de droite à gauche. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, je ne trouvais plus de plaisir au foot non plus, je me demandais bien que j'allais devenir, en fait.
Soutenu par ses parents, Jonathan Clauss s'accroche et gravit les échelons. Premier contrat professionnel à 24 ans, premier match de Ligue 1 à 27 ans. À 29 ans, le voici international et Jonathan Clauss espère encore nous surprendre.
Et la France affrontera la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille et l'Afrique du Sud mardi prochain à Lille. En tennis, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty crée la surprise et annonce sa retraite à 25 ans seulement. L'Australienne aux trois titres du Grand Chelem explique qu'elle n'a plus ni désir ni envie d'évoluer au plus haut niveau.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Lisieux que va se courir ce Quintet, une course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 10 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2725 et 2750 mètres. Priorité aux plus jeunes, avec Gaïa d'Ocagne, le numéro 7, la seule trotteuse âgée de 6 ans s'élançant en tête et qui, au vu de sa forme actuelle, devrait pouvoir pleinement profiter de ce bel engagement. On lui opposera les numéros 3, Élite d'Érable, qui vient de jouer de malchance sur l'hippodrome d'Amiens, 6, Caïman du Citrus, bien engagé au premier poteau et confié à Johan Le Bourgeois, 4, Krakatou, lui aussi pas des plus heureux lors de sa dernière course, et 12, Eddy du Pomereux, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification dans le Quintet du 5 mars à Vincennes, n'ayant vraiment pas bénéficié du meilleur des parcours ce jour-là. Enfin, les numéros 11, Favori de Liton, 1, Espoir de Bouère, et 13, Calimero du Tiol, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 3, 6, 4, 12, 11, As et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques qui ont raconté à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Le 23 mars 2001, la première station spatiale russe, appelée la station Mir, est volontairement détruite après avoir accueilli des spationautes pendant 15 ans. C'est l'ancêtre, Laure, de l'actuelle station spatiale internationale.
Oui, c'est la Russie qui prend la décision de détruire la station Mir pour des raisons de sécurité et aussi financières. Elle ne veut pas mener deux projets de front puisque la station spatiale internationale venait d'être mise en service et fonctionne encore aujourd'hui. Le 23 mars 2001 donc, la station Mir située à 350 km d'altitude va plonger dans les couches denses de l'atmosphère. Explication sur Europe 1 avec Lionel Suchet, ingénieur au Centre National d'Études Spatiales.
Pendant un peu plus de 20 minutes, le Progress va allumer ses moteurs, va freiner la station et va la précipiter dans les couches denses de l'atmosphère. Et il est prévu que les débris retombent dans l'océan vers 7h du matin, toujours hors de Paris.
Une pluie de météores incandescents déferle au-dessus du Pacifique. Les débris retombent dans l'océan où la circulation a été interrompue pour éviter tout accident. La structure initiale pèse tout de même 130 tonnes.
La station Mir, alors, était inoccupée depuis plusieurs mois sans aucun astronaute à bord.
Oui, la maintenir en orbite à 300 km d'altitude est très coûteux puisque, comme pour l'ISS aujourd'hui, il faut régulièrement qu'un cargo vienne corriger sa trajectoire. Sans cela, elle s'affaisserait progressivement. Mir, c'est une station mythique, quelque chose entre le vaisseau du capitaine Nemo et un laboratoire avec à l'intérieur des instruments entassés les uns sur les autres. L'astronaute français Jean-Pierre Aigneret y est allé en mission.
104 astronautes ont vécu dans cette station et ont amené leurs objets personnels, souvent les ont laissé des traces, des signatures. Et donc c'était vraiment quelque chose qui est une habitation qui avait une âme, un peu comme une maison de famille qui était visitée par des amis.
La station Mir a vécu 3 fois plus longtemps que prévu. Elle devait être utilisée pendant 5 ans et elle a fonctionné 15 ans.
La station a d'ailleurs plusieurs fois été réparée dans l'espace, en particulier en 1997, parce que les problèmes s'accumulent.
Oui, des pièces ont été échangées, un ordinateur de secours, la station est vétuste, les panneaux solaires ne fonctionnent plus. Et en 1997, un vaisseau décolle pour réparer la station. On a toujours peur, confie alors l'astronaute français Jean-Jacques Favier, mais pas au moment de faire les réparations.
On a peur avant la mission, on a peur à l'entraînement. On fait peur parce que bon, on vit des situations catastrophes volontairement. Et là, on se dit qu'effectivement, bon, ça peut aller très loin et ça peut être très dangereux.
Et en cas de gros problème, comme aujourd'hui sur l'ISS, il y a une procédure d'urgence qui permet aux astronautes à bord de partir au plus vite. Dans l'ISS, par exemple, les astronautes ont un petit vaisseau à disposition qui est accroché en permanence à la station.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant, sur Europe 1, une hausse record de la température en Antarctique. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et on se penche à présent sur cette vague de chaleur inédite à l'endroit le plus froid de la planète. Il y a quelques jours, la base de recherche Concordia en Antarctique, située à plus de 3000 mètres d'altitude, a enregistré une hausse brutale et record de la température. On en parle avec François-Marie Bréon, chercheur physicien climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Bonjour François-Marie Bréon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 afin de nous aider à comprendre ce phénomène qui a eu lieu en Antarctique vendredi dernier. Alors que la température moyenne dans la région est à cette période de l'année de moins 50 degrés en moyenne, le mercure a atteint moins 11,5 degrés Celsius. C'est environ 40 degrés de plus que la normale. Les scientifiques parlent d'un événement totalement inédit. Comment l'expliquez-vous ? Quelle en est la cause ?
En fait, il est un petit peu tôt pour avoir des conclusions. Ce qui est très clair, c'est que c'est un événement qui est statistiquement impossible, en fait. C'est-à-dire que les climatologues, souvent, aiment bien regarder les déviations par rapport à la normale et puis de regarder combien cette déviation s'écarte des déviations normales, finalement, parce qu'évidemment, d'un jour à l'autre, c'est normal qu'il y ait des fluctuations de température. Et là, on est à quelque chose qui est 6 fois plus fort qu'une déviation normale des températures, qu'une fluctuation normale. Et ça, ce genre de choses, c'est quelque chose qui doit arriver une fois tous les 10 millions, quoi. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais en fait, on a des événements du même type qui sont arrivés. Par exemple, l'été dernier, vous savez, on a eu des records de température extrêmement importants dans l'ouest du Canada. Et là aussi, c'était des événements du type impossible statistiquement. De même, lorsqu'il y avait eu l'été 2003 avec des canicules très importantes dans l'Europe de l'Ouest, c'était aussi des choses qui, a priori, sortaient complètement de ce qui était attendu. Donc là, on est dans un cas de réchauffement climatique, donc on sait que ça contribue un petit peu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, nos modèles, les modèles des climatologues, ne prévoient pas que ce genre de choses puisse arriver, même dans le cadre du réchauffement climatique. Donc on a besoin de travailler encore pour vraiment comprendre pourquoi c'est arrivé.
Alors vous l'avez précisé, ce n'est pas étonnant de constater en Antarctique à ce moment-là des variations de température. On comprend bien donc qu'il s'agit d'un événement extrême, de courte durée. Mais comment l'analyser ? C'est une nouvelle alerte, vous le prenez comme ça ?
Disons que c'est une alerte pour moi parce que ça veut dire que des choses qui sont même pas anticipées peuvent arriver. Et en fait, des choses, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui s'est passé au Canada l'été dernier, c'était un événement du même type, finalement, c'est-à-dire que quelque chose qui était bien au-delà de la variabilité normale de la météorologie, et on s'y attendait pas. Et là, pour le coup, au Canada, ça a eu des conséquences absolument dramatiques, avec des zones entières qui ont brûlé, avec des gens qui sont morts. Là, évidemment, en Antarctique, un événement très court de ce type-là n'a finalement pas gêné grand monde. Mais en tout cas, c'est une alerte pour nous dire, attention, le réchauffement climatique, c'est pas que des choses qu'on anticipe, c'est aussi peut-être des choses qu'on n'est même pas capable de prévoir aujourd'hui.
Ce phénomène survient alors que la banquise de l'Antarctique a atteint fin février sa superficie la plus petite enregistrée depuis le début des mesures satellites en 1979. Ce genre d'événement, cette hausse brutale du mercure, peut-elle provoquer la fonte des glaces ? Est-ce que vous y pensez ?
Alors, il est très clair que la hausse des températures conduit à la fonte des glaces, mais vraiment il faut distinguer qu'est-ce qui est la tendance lourde, l'augmentation de la température moyenne au cours des années, au cours des décennies, et puis c'est un événement extrêmement brutal, mais qui a finalement une courte durée, et donc si la durée reste courte, finalement c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact sur la banquise, c'est vraiment la tendance à long terme. Et je rappelle aussi que pour ce qui est du niveau des mers, qui bien évidemment a des impacts sur toute la planète, c'est pas tellement la banquise qui compte, mais c'est vraiment la glace qui est posée sur le continent antarctique et qui, elle, va fondre, et en fondant, elle a un impact sur le niveau des mers.
Alors, on parle quand même de douceur historique à plusieurs reprises en Antarctique. C'est pas la première fois qu'on l'entend. On le disait déjà en 2020. On pouvait le lire dans de nombreux articles de presse, des records. Jusqu'à quand, François-Marie Bréon, ça ne va pas s'arrêter ?
Ah non, ça, malheureusement, en tout cas, les modèles de climat nous disent bien que cette hausse des températures avec des canicules de plus en plus fréquentes, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent et aussi avoir des amplitudes de plus en plus grandes si on n'arrive pas à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et il apparaît assez clairement que c'est pas près d'arriver, malheureusement. Et donc oui, il va falloir s'adapter à des canicules fréquentes et de plus en plus intenses.
Alors vous l'avez précisé, hein, c'est écrit dans le dernier rapport du GIEC, le nombre de vagues de chaleur augmente sur toute la surface du globe. Vous le prévoyez d'ailleurs depuis longtemps. On fait le lien entre ce qui se passe en Antarctique et le réchauffement climatique global.
Il est très clair que le réchauffement climatique global affecte l'Antarctique, même qu'il est plutôt, enfin le réchauffement est plutôt plus important en Antarctique qu'ailleurs. Maintenant, l'événement de la semaine dernière, hein, qui est un peu l'objet de notre interview, lui, pour le coup, c'est un événement qui est réellement exceptionnel et le réchauffement global ne suffit pas pour l'expliquer. Peut-être que le réchauffement global a une petite contribution à ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Cet événement, c'est une modification de la circulation, enfin c'est une circulation atmosphérique qui est très particulière. Est-ce que cette circulation atmosphérique très particulière est créée par le réchauffement climatique? Ça, il va falloir que les climatologues travaillent sur la question dans les prochaines semaines, mais c'est même pas évident. Peut-être que c'est simplement un événement qui s'est produit de manière complètement fortuite et donc qui n'est pas en lien direct avec le réchauffement climatique. Il faut encore travailler pour pouvoir répondre à cette question.
Merci beaucoup, François-Marie Briand, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes chercheur physicien climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous avez publié Réchauffement climatique aux éditions Human Science. Merci encore, très bonne journée.
Merci, très bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1. Les principaux titres, le journal permanent, Alban Le Prince.
En Ukraine, des bombes super puissantes sont tombées hier à Mariupol où sont toujours coincées 100 000 personnes. Tandis qu'à Kiev, la capitale, le couvre-feu prend fin dans une dizaine de minutes. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, l'affirme. Le drapeau russe ne flottera jamais au-dessus de Kiev. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit prendre la parole. Aujourd'hui, ce sera par visioconférence devant les députés et sénateurs français à 15h. Le géant français des hydrocarbures, Total Energy, a de son côté annoncé hier mettre fin à l'achat de pétrole et de diesel russe d'ici la fin de l'année. Et puis en tennis, la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, crée la surprise. Ce matin, elle vient d'annoncer prendre sa retraite à seulement 25 ans dans un message vidéo posté sur ses réseaux sociaux.
Nous sommes mercredi et c'est donc le jour des sorties au cinéma.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, et on va commencer avec un film qui nous ouvre l'appétit.
Oui, c'est La Brigade qui va vous ouvrir l'appétit, mais qui va aussi vous faire rire et surtout vous émouvoir. Alors après avoir mis en lumière les femmes sans-abri dans Les Invisibles, Louis-Julien Petit retrouve Audrey Lamy pour parler cette fois de mineurs étrangers réfugiés. Audrey Lamy incarne donc Cathy Marie, une cuisinière qui se rêvait chef dans un grand restaurant, mais va être contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un refuge pour jeunes migrants, dirigé par François Cluzet. Avec 7 euros par repas et par personne par jour, elle va tout de même, vous allez voir, appliquer son savoir-faire dans cette cantine, car finalement, quand on a une passion, c'est plus fort que tout.
Mais quel enfer !
Vous avez vu l'état de la cuisine ?
Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules.
Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça.
On est là !
Mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien ?
Ben, je t'avais dit, ils sont très motivés.
Ça, c'est le cucu, ça, c'est la tête-tête. C'est ça qu'on veut, d'accord ? C'est quoi, ça ?
Ça, c'est stylé, mais...
Non, c'est pas stylé, c'est crade.
On aime beaucoup Audrey Lamy et puis c'est un sujet fort, c'est un sujet intéressant, plus que jamais d'actualité malheureusement. Avec la force de Louis-Julien Petit d'avoir casté des comédiens non professionnels réfugiés qui sont absolument incroyables. Cette brigade, on y croit et surtout on s'attache à eux. C'est une vraie comédie sociale. D'ailleurs, Louis-Julien Petit a mis en place un numéro qui est donné dans le film. Je vous le donne tout de suite, 07 49 79 49 61 et qui permet de mettre en relation des migrants qui ont besoin de travailler avec des employeurs. Retenez donc bien ce numéro 07 49 79 49 61.
Et puis Laurie, cette semaine au cinéma, une mère en quête de vengeance.
Oui, une mère, c'est le titre du film, et cette mère brisée par le chagrin est jouée par la toujours excellente Karine Viard. Dans ce premier film de Sylvie Hautecoeur, Karine Viard incarne cette mère qui ne s'est jamais relevée de la perte de son fils assassiné par un autre jeune au cours d'une altercation autour d'une histoire de scooter et qui découvre quelques années plus tard qu'il a été remis en liberté et décide de faire justice elle-même.
80 km, c'est plus la porte à côté. Vous n'avez pas trouvé un plombier plus près ?
Et votre apprenti, il peut pas faire les travaux ?
Je suis bien chez Madame Morel ?
Oui.
Vous me reconnaissez pas. Vous allez me dire que je suis là par hasard ? Si je me prends la tête avec une adéquase, je retourne au placard.
C'est peut-être ça que vous voulez ?
Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne.
C'est vraiment un film âpre, mais jamais larmoyant, c'est déchirant. Karine Viard joue avec une justesse incroyable cette mère défaite qui va finalement réaliser que derrière tout monstre se cache un être humain. Et puis face à elle, cet acteur, Darren Muselet, épatant. Écoutez-la justement nous parler de cette rencontre.
Darren, c'est un jeune acteur qui ressemble beaucoup au rôle qu'on lui a donné. J'ai pas eu de garçon, mais le temps du film, c'est vrai que ça a été un petit peu mon gosse. Parce que c'est touchant en fait d'avoir une espèce de diamant brut en face de toi. Donc j'ai eu l'impression de lui apprendre un peu ce que c'était que d'être un acteur. Et je l'ai surtout beaucoup aimé.
Et ça donne un huis clos passionnant avec un vrai jeu d'acteur qui va vous prendre aux tripes.
Une mère avec Karine Viard. Et puis la brigade de Louis-Julien Petit, vos deux coups de cœur au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Laurie Choleva et on vous donne rendez-vous samedi pour votre émission Clap sur Europe 1 entre 14h et 15h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1 dans un instant, la météo, le journal et une nouvelle flambée.
Oui, entre la guerre en Ukraine et la levée des principales restrictions sanitaires, on a un peu vite oublié que l'épidémie de Covid n'était pas terminée. Il n'y a pas que du relâchement dans l'air, il y a aussi le BA2, le petit frère d'Omicron, encore plus contagieux. Résultat, les contaminations ont bondi de 43% en une semaine et plus inquiétant encore, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. Alors faut-il s'en inquiéter, voire revenir sur certaines libertés retrouvées il y a peu, comme le port du masque en intérieur, autant de questions que l'on va poser dans une dizaine de minutes à notre invitée Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de Santé. Juste après Omblin, on écoutera attentivement votre partition.
Eddy Mitchell a écrit avec lui environ 200 titres. Hommage ce matin au compositeur Pierre Papadiamandis qui vient de nous quitter.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nous.
L'un boisson whisky avec glace, l'autre sans, l'un chante, l'autre pas. Retour dans 20 minutes sur la collaboration extrêmement féconde entre les deux artistes pendant plus de 50 ans.
La météo, Anissa Haddadi, du soleil, du soleil, du soleil.
Bah, pas grand chose à dire aujourd'hui, hein, à part franchement que le soleil brille partout. Alors ce matin, le ciel n'est pas complètement dégagé. Allez, on cherche dans les détails et on trouve quelques petits nuages qui traînent sur la Bretagne et sur le Languedoc. Mais ces nuages sont inoffensifs, le temps est sec partout. On a vraiment de moins en moins de nuages au fil des heures. Alors il faut savoir que sur la Bretagne, ce sont des nuages d'altitude et sur le Languedoc, ce sont des nuages bas. Donc voilà, ce matin, peut-être que vous aurez une petite réduction de la visibilité, mais enfin rien de très inquiétant. Pas de jaloux, tout le monde sera sous le soleil. Dans le sud-ouest, le vent d'autant faiblit. Alors ça faiblit un peu, mais le vent reste sensible encore dans le sud-ouest avec des rafales à 80 km/h cet après-midi. Alors malgré ce beau soleil, ben on va se couvrir ce matin parce qu'on a moins 4 degrés à Manosque, moins 3 à Charleville-Mézières, moins 1 à Lyon, 5 à Paris et 10 à Boulogne-sur-Mer cet après-midi. Chaleur jusqu'à 19 degrés à Metz et 20 à Paris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mercredi 23 mars. Il est 6h. Est-il bien raisonnable de retirer son masque ? L'épidémie de Covid repart en France et notamment en Bretagne, région la plus touchée où nous serons dans un instant. La guerre s'invite au Parlement français. Le président ukrainien s'exprime cet après-midi devant les députés et sénateurs. Un conflit qui fait flamber, vous le savez, le prix du pétrole et donc du kérosène. Une hausse déjà répercutée sur le prix de nos billets d'avion. Et puis c'est l'un des bijoux de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le grand orgue, miraculeusement épargné par l'incendie de 2019. À la fin de ce journal, nous serons aux côtés des artisans chargés de restaurer cet instrument monumental.
Europe Matin, Omblin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté comme chaque matin par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Vous aussi, vous hésitez, gardez son masque au travail et l'enlever à la boulangerie ou bien l'inverse. Depuis 10 jours, il n'est plus obligatoire en intérieur à l'exception des transports et des hôpitaux.
Un calendrier trop brutal pour l'Organisation Mondiale de la Santé qui a visé directement la France hier dans une conférence de presse.
Et pour cause, on frôle désormais les 100 000 cas de Covid par jour en moyenne, plus 38% en une semaine. La région la plus touchée, c'est la Bretagne. Le reportage de notre correspondante Sandrine Prioul à Cesson-Sévigné où l'épidémie et le masque sont de retour.
Ça va être la cinquième fois que je suis piquée cette année. Alors
rubéole, grippe et surtout Covid. Cette retraitée est abonnée à la vaccination sur la longue liste du pharmacien Éric Vallot, également testeur.
En fait, on vaccine en début d'après-midi et on fait des tests tous les matins et tous les soirs.
Aujourd'hui, 15 antigéniques au compteur, une large moitié positive.
Des gens qui viennent avec des cas contacts familiaux, donc c'est des familles entières.
Madame, ma petite, elle a les cas contacts, donc là j'ai fait un test salivaire pour elle. Moi, je l'ai eu au mois de janvier. J'espère ne pas le rechoper. Mais même quand ils ont dit oui, on peut circuler sans masque. Non, je l'ai pratiquement pas lâché, moi.
Alors que l'OMS considère que les mesures ont été levées trop tôt en France, le pharmacien encourage, lui, ceux qui gardent le réflexe du port du masque.
Ils avaient l'impression que c'était une obligation de porter le masque et que c'était une obligation de l'enlever. C'est un peu dommage. Donc maintenant, il faut vraiment ne pas passer de tout à rien. Garder le masque quand on est enrhumé, quand on est en face de gens fragiles, ce sera déjà très bien.
Une tension en Bretagne assez inédite, concède-t-on ici, même si les symptômes de ce sous-variant variant BA2 reste comparable au rhinopharyngite. Cesson-Sévigné, près de Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
C'est dans sa tenue de combat avec son t-shirt kaki et derrière un écran que Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi devant les parlementaires français.
Une visioconférence à 15h où le président ukrainien devrait demander davantage de soutien face à l'ennemi russe. Volodymyr Zelensky qui s'exprimera aussi demain à l'occasion du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Les Occidentaux devraient y annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie.
La Russie qui perd l'un de ses plus gros clients pour ses hydrocarbures. Le géant français Total Energy n'achètera plus une goutte de pétrole russe d'ici la fin de l'année.
Une décision qui pourrait encore bousculer le marché des hydrocarbures. $117 pour un baril de Brent ce matin. Flambée du cours de pétrole et donc du kérosène, le carburant utilisé pour les avions. Et certaines compagnies répercutent déjà ce coût sur le prix de nos billets, Maud Descamps.
Oui, entre 6 et 10% de hausse des tarifs des billets d'avion pour compenser la flambée des prix du kérosène qui a augmenté de 20% ces jours-ci, m'expliquait Alain Battisti, le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Et quand on sait que le carburant représente près d'un quart du prix d'un billet d'avion, les compagnies peuvent difficilement maintenir leurs tarifs. Le patron d'Air Caraïbes, par exemple, Marc Rocher, a augmenté ses billets de 20 euros, une hausse qui intervient au pire moment.
On sort de presque 2 ans de crise sanitaire. On repartait avec des engagements qui étaient... Alors, ça n'explosait pas la demande de voyage aérien, mais les demandes étaient fortes et on envisageait un bon été.
Et les compagnies sont inquiètes. Nous n'avons aucune visibilité sur l'été, me disait un expert, mais on pense que le prix du carburant va rester haut, a-t-il ajouté. Le secteur aérien ne devrait pas bénéficier de coups de pouce sur le kérosène dans le cadre du plan de résilience. Interrogée par Europe 1, la ministre de l'écologie Barbara Pompili a indiqué regarder si les compagnies aériennes pourraient bénéficier d'autres aides spécifiques.
Précision signée Maud Descamps pour Europe 1.
Et puis sur le front, 2 bombes surpuissantes lâchées au-dessus de Marioupol selon la mairie. Marioupol, ville assiégée par les forces russes qui encerclent aussi Kiev, la capitale, où le 3e couvre-feu vient de se terminer il y a quelques minutes. Pour ou contre Emmanuel Macron, voilà l'éprouvant débat qui devrait secouer la droite après le premier tour de l'élection présidentielle où Valérie Pécresse devrait a priori rester sur la touche. La candidate des Républicains est passée sous les 10% d'intention de vote dans les sondages.
Valérie Pécresse qui aurait donc tort de se priver d'une réserve de voix, celle des chasseurs.
En France, 1 million de personnes possèdent un permis, selon la Fédération nationale des chasseurs. Le puissant lobby organisé hier son congrès annuel où Valérie Pécresse, invitée comme d'autres candidats, a défendu la pratique.
La chasse mérite mieux que les polémiques et les invectives. Je veux rendre leur dignité aux chasseurs, qui sont souvent accusés et injuriés quotidiennement dans des termes dont personne n'oserait qualifier son pire ennemi. Les chasseurs sont respectueux des lois. Et les lois sont de plus en plus contraignantes. Si nous n'avons pas de chasseurs, nous n'aurons pas de régulation du gibier et nous n'aurons pas de reforestation de nos forêts. Donc en réalité, c'est toute la question de la vie de la nature qui est aujourd'hui posée. Et c'est pour ça que vous êtes, vous chasseurs, indispensables gardiens de la biodiversité, que vous jouez un rôle essentiel dans le suivi de la faune sauvage.
Valérie Pécresse au Congrès national des chasseurs hier.
Voilà une décision qui devrait apaiser les débats. La mairie de Paris renonce à imposer une redevance sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, soit un manque à gagner d'une vingtaine de millions d'euros.
Les dons serviront donc uniquement à la poursuite du chantier, avec un joyau qui est en train d'être ressuscité. Voilà les notes de Bach jouées par le grand orgue de Notre-Dame, miraculeusement épargné par l'incendie du 15 avril 2019. L'instrument alors a tout de même besoin d'un coup de propre. Notre correspondant, Benjamin Péter, s'est rendu à la manufacture languedocienne dans l'Hérault, l'une des trois entreprises missionnées pour cette restauration. Reportage.
Là, je nettoie. J'enlève la vieille colle.
À l'aide d'un racloir, Christian répète ce geste inlassablement. Ici, on est en charge des 19 sommiers de l'orgue, des blocs de chêne situés à la base des tuyaux et qui assurent la répartition de l'air.
Au-dessus de chaque trou, là, vous avez un tuyau. Presque 8000 tuyaux. Ouais. Ben, nous, c'est un peu la chasse aux fuites qu'on fait. Là, par exemple. Là, tout va bien, là.
L'instrument n'a pas été abîmé par l'incendie, mais il a fallu le démonter pour enlever les poussières de plomb. L'occasion pour Charles, le patron de la manufacture, de lui offrir une petite révision.
L'usure, la peau, l'école qui se craquelle, ça vient pas de l'incendie, quoi, voilà. Ça vient du temps. Comme il fallait les démonter, de toute façon, pour arriver à dépolluer tout ça, ça aurait été bête de les remettre dans l'état, quoi, voilà.
Brice travaille ici depuis 40 ans. Rénover le plus grand orgue de France est un peu l'aboutissement de sa carrière.
Ça sera le point d'orgue et j'ai décidé de prendre ma retraite le jour où les cloches de Notre-Dame sont. C'est quand même une pièce exceptionnelle. Quand on a fini la journée de travail, on s'est dit qu'on a quand même de la chance. Hein.
Alors ce chantier des sommiers doit durer jusqu'au mois de septembre. Ensuite, ils se rendront dans Notre-Dame pour travailler sur les soufflets qui alimentent l'instrument en air et qui, eux, ne peuvent pas être déplacés. À l'ODEF, Benjamin Péter, Europe 1.
Voilà, le grand orgue que vous pourrez réécouter en vrai en 2024, date de la réouverture de la cathédrale au grand public.
Pas mal pour votre mariage, ça.
Ouais, bon, c'est pas très... Je serais plus ambiance guinguette que orgue, mais
vous avez encore
c'est
le
personnel.
Temps.
Voilà.
On verra ça plus tard. Merci beaucoup, Romane Hockey, pour ce journal.
Avant de marier Romane, on passe au sport. Le journal des sports à 6h07 avec vous, Martin Lange, et J-2 pour les Bleus avant leur rentrée contre la Côte d'Ivoire.
Oui, les joueurs de Didier Deschamps se sont entraînés ensemble pour la première fois hier. Un grand moment, forcément, pour les petits nouveaux et encore plus pour le défenseur lensois, Jonathan Clauss, qui découvre les Bleus à 29 ans.
Tout est extraordinaire. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Des gens à l'accueil, jusque dans les chambres. J'avais un peu les étoiles dans les yeux, le côté un peu « je regarde beaucoup ». Il faut que je garde en dehors du terrain ce côté émerveillé, mais que sur le terrain, je le sois moins.
À noter que N'Golo Kanté a quitté Clairefontaine pour des raisons personnelles. Il est incertain pour le match contre la Côte d'Ivoire vendredi. Puis le journal L'Équipe révèle ce matin que Kylian Mbappé a refusé de participer aux opérations marketing organisées hier par la Fédération. De quoi agacer en haut lieu.
À la page foot, toujours les filles du PSG, plus en réussite que les garçons en Ligue des Champions.
Oui, elles ont été battre le Bayern Munich chez lui hier soir. Victoire 2-1 en quart de finale aller. Match retour au Parc des Princes la semaine prochaine. Ce soir, c'est Lyon qui entre en piste. Les Lyonnaises affrontent la Juventus de Turin.
On passe au volet, Martin.
Oui, avec un coup de tonnerre hier, la démission surprise du sélectionneur de l'équipe de France, Bernardo Rezende, pour raison familiale. Le Brésilien laisse l'équipe de France orpheline à 5 mois du Mondial. Mais pour la DTN, Axel Guguet, cela ne remet pas en cause les objectifs des Bleus.
L'équipe de France est championne olympique et la compétence et l'expérience acquise les bien. Leur niveau de jeu et les objectifs qui leur sont fixés et qu'eux-mêmes se fixent n'ont absolument pas changé. Charge à nous de trouver la bonne personne pour les accompagner.
Rezende qui a annoncé qu'il allait participer aux recherches de son successeur. Le volley français qui surfe toujours sur son titre olympique. Hier, Narbonne a remporté la première Coupe d'Europe de son histoire, le Challenge Cup contre Ankara au set décisif.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Le début des championnats du monde de patinage artistique à Montpellier, des championnats très ouverts en l'absence des athlètes russes, mais avec nos deux champions olympiques de danse, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Et puis la bombe de la nuit en tennis, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty annonce sa retraite. L'Australienne, 3 majeurs au compteur, dont le dernier Open d'Australie, n'a que 25 ans.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, cette question. Avons-nous abandonné trop vite les mesures sanitaires? Les contaminations au Covid repartent en flèche. On en parle dans un instant avec Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de Santé. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1. 6h11, votre invité Julien est la présidente de la HAS, la Haute Autorité de Santé.
Bonjour Dominique Le Guludec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi ce matin que l'on puisse bénéficier de vos lumières car on entend un peu tout et son contraire en ce moment au sujet de l'épidémie de Covid. Ce qui est incontestable, ce sont les chiffres. Le nombre de contaminations a augmenté de 43% en une semaine, plus de 180 000 cas recensés hier. Et plus inquiétant encore, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus depuis quelques jours. D'où ma question, est-ce qu'on n'est pas allé plus vite que la musique épidémique en levant l'essentiel des restrictions ?
Alors, vous savez, la décision de maintenir ou de lever les restrictions, c'est une décision gouvernementale complexe et qui prend en compte des éléments qui sont beaucoup plus larges que simplement les données scientifiques qui nous guident nos recommandations au sein de la Haute Autorité de Santé. Et notamment, elles doivent tenir compte de l'acceptabilité des restrictions qui sont mises en œuvre depuis maintenant plus de 2 ans. Je dirais que les Français ont vraiment joué le jeu pendant 2 ans. Hein. Ils se sont efforcés de respecter toutes les restrictions alors que c'était pas toujours facile dans leur quotidien. Alors, vous avez raison, hein, l'épidémie marque une réelle reprise. On ne peut pas vraiment dire le niveau qu'elle atteindra exactement. Les projections de l'Institut Pasteur que nous avons utilisées dans nos derniers avis semblent indiquer, en effet, qu'elle atteindra un niveau important dans les 100 000 cas quotidiens à peu près.
Dominique
mais,
Lugudec,
mais qu'elle resterait toujours inférieure à janvier.
Je vais vous reposer ma question différemment. Est-ce que la situation sanitaire ce matin que vous analysez en tant que spécialiste impose à vos yeux ou imposerait à vos yeux qu'on rétablisse certaines restrictions?
Vous savez, dans nos avis, on ne manque jamais de répéter qu'il faut rester prudent et en particulier continuer à protéger les plus fragiles et ceux qui sont particulièrement susceptibles de faire une forme grave, d'être hospitalisés ou d'aller en réanimation. Mais actuellement, vous voyez qu'on va plus à l'hôpital qu'en réanimation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a proposé aux plus fragiles cette deuxième dose de rappel, mais on y reviendra, j'imagine.
On va y revenir dans un instant. Mais vous ne trouvez pas, comme certains de vos contraires, que la politique sanitaire actuellement est un peu inaudible? C'est-à-dire qu'on a d'un côté le gouvernement qui nous dit « enlevez tout, c'est le retour de la liberté », et de l'autre, on a des campagnes de communication. J'en ai vu encore cette nuit, nous appelant à continuer de nous protéger. Avouez qu'il y a de quoi être perdu.
Alors, je crois qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation que les vagues précédentes. Il y a 36 millions de personnes qui ont reçu une dose de rappel en France et qui sont donc bien protégés contre les formes graves de la maladie. Pas complètement, mais bien. Deuxièmement, on sait que Omicron donne moins de formes graves, en particulier chez les jeunes.
Oui.
On sait que les gens âgés restent les plus susceptibles. Donc, je crois qu'il faut garder du bon sens. Et même s'il n'y a pas, s'il y a une levée des restrictions obligatoires, ce n'est pas synonyme de levée de vigilance.
Donc vous appelez ce matin à ce qu'on conserve au maximum le masque, par exemple en intérieur, au travail notamment ?
Je crois qu'il faut s'adapter aux conditions, savoir combien on est, et que dans une pièce, dans les lieux fermés où on est nombreux, il faut rester prudent et en effet aérer, avoir un peu de distanciation, garder le masque. Il faut vraiment faire preuve de bon sens, même si les choses ne sont pas obligatoires.
Est-ce que ce masque est toujours pleinement efficace face au sous-variant BA2, le petit frère de Omicron? Parce que lundi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a laissé penser que certaines mesures barrières n'étaient plus efficaces face à la haute contagiosité de ce sous-variant.
Alors, le masque reste efficace quel que soit le virus. Il peut l'être un peu plus ou un peu moins, mais des études récentes ont encore montré que les masques restaient franchement efficaces pour éviter, à titre individuel, pour éviter la maladie. Elle protège sur les virus, les différents variants, d'environ 60%.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ce rebond de l'épidémie ? C'est le retour en classe sans masque avec l'allègement du protocole sanitaire ? C'est ça qui est à l'origine de ce rebond de contamination ?
Alors, c'est difficile à dire, hein, parce qu'on n'a pas de données précises sur ce point. Il est néanmoins possible que la levée de cette restriction, à l'instar de toutes les autres, soit un des éléments susceptibles d'expliquer ce rebond. Hein.
Je vous pose cette question parce qu'on constate que les régions les plus touchées à l'heure actuelle sont celles qui appartiennent à la zone B, c'est-à-dire les premières à être revenues en classe fin février.
Oui, il est possible que cette levée d'obligation du masque à l'école soit une partie de l'explication. Mais je vous rappelle aussi que l'acceptabilité du masque à l'école constitue une contrainte non négligeable dans le quotidien des enfants. Donc c'est vrai que les décisions ne sont pas simples.
Ça ne vous inquiète pas de voir certains départements plutôt épargnés jusqu'ici par l'épidémie, qui n'ont donc pas une forte immunité naturelle, typiquement les Côtes d'Armor, qui affichent ce matin un taux d'incidence de 1450 cas pour 100 000 habitants. C'est considérable.
C'est considérable et encore une fois, même si ce variant donne beaucoup moins de formes sévères que, enfin, globalement Omicron et son sous-variant, on n'a pas de données précises sur le sous-variant encore, c'est un peu tôt, mais les premières données qu'on a semblent indiquer qu'il est plus contagieux mais pas plus sévère. Et évidemment, cela implique qu'il faut continuer à être vigilant. Il faut que ceux qui n'ont pas eu le rappel le fassent, parce que là on sait, là maintenant on a des données pour dire que ce rappel est efficace. Et puis protéger les plus fragiles.
Alors de quel rappel parlez-vous? De quel rappel? Celui la troisième ou la quatrième dose qui est depuis quelques jours, quelques semaines autorisée pour les plus de 80 ans et les immunodéprimés?
Alors je parle déjà du premier rappel. Puisque il y a nombreux Français qui ont le premier rappel, mais loin d'être tous les Français. Donc déjà, je pense qu'il est important de rappeler que ce rappel protège réellement des formes sévères.
Donc la troisième dose.
Donc la troisième dose. Maintenant, nous parlons plutôt pour le deuxième rappel, vraiment uniquement des gens à haut risque. À très haut risque. Nous avons vu pendant le mois de, au 10 mars par exemple, que les plus de 60 ans représentent 80% des patients hospitalisés avec Covid. Vous voyez, 80% c'est quand même beaucoup. Alors il s'agit des plus de 80 ans et des personnes immunodéprimées qui ont eu droit rapidement à ce rappel. Et nous avons proposé, par cohérence, de pouvoir l'administrer aux plus de 65 ans qui le souhaitent et qui sont à très haut risque de formes sévères, c'est-à-dire qui ont des maladies évolutives, un cancer évolutif, de multiples pathologies, parce qu'ils sont finalement aussi fragiles que les 80 ans et plus.
Donc votre recommandation à la HAS, ce sont les plus de 65 ans.
Plus de 65 ans à très haut risque. Mais attention, nous avons proposé que ce rappel soit fait à 6 mois à partir de la première dose. Pourquoi? Parce que à 3 mois, l'efficacité est encore bonne, 70% sur les hospitalisations et davantage encore sur les formes sévères, et qu'il ne faut pas le répéter non plus trop souvent. Et ne pas diminuer non plus l'acceptabilité et l'adhésion des Français à cette vaccination par des rappels trop fréquents.
Tout ça est un équilibre, on l'entend effectivement, entre restriction et liberté, effectivement. Merci beaucoup Dominique Le Gulludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée. Bonne journée et à bientôt.
Merci à vous.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
En Ukraine, il fait 3 degrés à Mariupol où 100 000 civils sont toujours coincés. Sans gaz, sans électricité, sans chauffage donc, ni nourriture. La ville martyre a une nouvelle fois été frappée hier, cette fois-ci par 2 bombes super puissantes. Le nombre de victimes n'est toujours pas connu. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doit s'exprimer aujourd'hui devant les députés et sénateurs français. Prise de parole par visioconférence à 15h. La présidentielle, premier tour dans 18 jours, Anne Hidalgo veut y croire. La candidate PS a une fois encore balayé l'idée d'un vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, pourtant le mieux placé à gauche dans les sondages.
On termine avec votre partition, Omblin, et un hommage ce matin au compositeur fétiche d'Eddie Mitchell, le pianiste Pierre Papadiamandis, dont on a appris les disparitions hier.
Oui, sans les notes de Pierre Papadiamandis, Julien, pas de chanson d'Eddie Mitchell. Sur les 60 ans de carrière du chanteur, 50 ont été partagées avec son complice.
Je suis pas comme Hitty, je veux rester ici. Ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme.
Ils se rencontrent au début des années 60. Eddie Mitchell cherche alors un pianiste pour son spectacle à Bobino à Paris.
Pierre Papadimoandis a 25 ans. Eddie Mitchell, 5 ans de moins. Il vient de quitter les Chaussettes Noires et il enregistre la chanson « Toujours un coin qui me rappelle ». Un morceau sur lequel on entend un piano, pas rocker pour dessous. Le truc de Pierre Papadimoandis, c'est le classique et le jazz. Mais il aime le style d'Eddie Mitchell. Le musicien est donc engagé et pendant 2 ans, il officie simplement en tant que pianiste, pianiste discret au sein de l'orchestre du chanteur.
Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherche du regard un spot, le dieu projecteur.
En 1966, Pierre Papadimoandis se décide à faire entendre à Eddie Mitchell l'une de ses compositions.
Elle deviendra la chanson « J'ai oublié de l'oublier ». Elle donnera surtout naissance à leur tandem et à une très belle histoire d'amitié ponctuée de vannes et de chamaillerie. C'est d'ailleurs grâce à Pierre Papadimoandis qu'Eddie Mitchell préfère les chansons originales aux reprises de tubes américains.
Depuis le début, le duo travaille toujours de la même manière.
Le premier livre les musiques et ensuite le second écrit les paroles. Eddie Mitchell explique qu'il ne sait pas faire autrement. Il a besoin des notes pour coucher les mots sur le papier. Et ne croyez pas qu'ils aient des chansons d'avance dans leur tiroir. Ils créent dans l'instant, au fur et à mesure, si bien que le producteur d'Eddie Mitchell détermine les dates d'enregistrement de ses albums avant même d'avoir écouté quoi que ce soit.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nous.
En 1982, lorsqu'Eddie Mitchell apparaît à la télévision dans l'émission La Dernière Séance, il publie au même moment son album Le Cimetière des éléphants.
L'exemple parfait de sa collaboration fructueuse avec Pierre Papadimoandis. Eddie Mitchell part enregistrer aux États-Unis dans une interview accordée au journal Le Parisien en décembre dernier. Eddie Mitchell explique qu'il n'a jamais envisagé un album sans lui. On a toujours envie et besoin de travailler, cela nous booste. On ne voit pas le temps passer sans Pierre. Je n'aurais jamais fait cette carrière.
C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident. Mais toi maintenant, tu veux plus. Et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Je prendrai pas trop de place, promis, craché, juré. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Cherchez le cimetière des éléphants.
Le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell sur une musique de son fidèle compositeur Pierre Papadimoandis qui nous a quittés hier à l'âge de 85 ans.
Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe 1.